Alors oui, ce matin, j'ai repris en fait le dossier en fait qui est proposé pour le dimanche de l'Église persécutée. En fait, propose un message dont le thème aujourd'hui est éprouvé par le feu, notre foi plus précieuse que l'or. Alors ces mots viennent de la parole de Dieu dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 1 à 9, où on peut lire ça. Je vais le lire juste après. Et voilà, je l'ai consulté. Au début, je me suis dit, est-ce que je le prends? Est-ce que je prends juste le thème? Je trouvais qu'il était très bien. En plus, il y a quelques témoignages aussi qui sont partagés justement sur ce que ont vécu ou peuvent vivre aussi justement nos frères et sœurs à travers le monde. Et donc voilà, donc je vais le partager avec vous, le relire avec vous aussi ce matin. Alors, saviez-vous qu'il faut une chaleur de 1000 degrés Celsius pour faire fondre de l'or et le purifier? C'est une chaleur extrême, mais nécessaire, sinon le résultat serait imparfait. L'or aurait des impuretés et perdrait de sa valeur. Dans la première épître de Pierre, cette même image est donnée pour parler des épreuves par lesquelles notre foi peut passer. Alors, avant de creuser justement cette partie et cette image qui est reprise, donc nous allons lire 1 Pierre au chapitre 1, versets 1 à 9. Donc ceux qui ont une Bible peuvent l'ouvrir. On va le lire ensemble. Alors, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, qui est l'auteur de cette lettre? C'est facile, un Pierre, je pense que le nom est dedans, donc c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Alors, dans les évangiles, nous apprenons à connaître Pierre, le pêcheur de poissons, un homme simple, issu du peuple, qui a été appelé par Jésus à le suivre et qui sera désigné par celui-ci comme son apôtre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 18 et 19, on peut lire: Jésus lui dit: en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit: suis-moi. Pierre a su, tôt dans son ministère, qu'une mort pénible l'attendait. Mais Jésus lui dit: suis-moi. Nous pourrions dire que Jésus demande: suis-moi, quel qu'en soit le prix. Et en effet, selon la tradition chrétienne, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais l'apôtre Pierre donc est mort crucifié, la tête à l'envers, peu de temps après la rédaction de cette épître, en tout cas persécuté. Alors, cette lettre a été écrite dans un contexte de persécution contre les chrétiens dans l'Empire romain. Pierre connaît personnellement la persécution, frappé, emprisonné, il a souvent été menacé. Il a vu des amis chrétiens mourir, d'autres se réfugier à l'étranger. Mais il connaît Christ. Et rien ne peut ébranler sa confiance en son Seigneur ressuscité. Il écrit donc à l'Église dispersée, aux chrétiens d'Asie mineure, qui correspond à la Turquie actuelle, qui souffrent pour sa foi. Il veut les préparer à ces temps d'épreuve, leur apporter réconfort et espérance, et les exhorter à tenir bon, leur recommander une loyauté constante envers Christ. C'est comme si aujourd'hui un chrétien persécuté d'Irak écrivait une lettre à ses frères et sœurs persécutés en Afghanistan, pour les encourager et leur donner des conseils tirés de son expérience des mêmes souffrances. Cette solidarité au sein du corps du Christ est l'une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui, en Afghanistan ou ailleurs. Et alors, il nous propose justement un petit paragraphe sur la situation en Afghanistan en 2022. L'Afghanistan qui est d'ailleurs un pays pour lequel, en fait, il y a... Portes Ouvertes nous propose de prier particulièrement justement là sur le mois de novembre aussi. Donc l'Église secrète d'Afghanistan est mise à rude épreuve. La prise de pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci la répression contre les chrétiens, ce qui a conduit le pays à la première place de l'index mondial de persécution des chrétiens en 2022. Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté actuelle de chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés, précise Saad, un chrétien rescapé. Alors, quelles sont les grandes lignes du chapitre 1 de 1 Pierre ? Le premier chapitre de 1 Pierre parle beaucoup d'espoir. Pierre rappelle aux croyants leur position bénie. Il les enseigne aussi sur leur responsabilité et leur devoir de disciples à vivre dans ce monde comme des étrangers au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans sa lettre, que ce soit au chapitre 1, 2 ou 4, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires sur la terre et qu'ils seront amenés à subir l'opposition du monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Nous allons développer cette image. En regardant d'abord les versets 2 à 5, avec la raison de l'épreuve. Il est intéressant de voir qu'avant de nous parler de l'épreuve, Pierre rappelle la raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance. Cette raison, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Ici, il s'agit des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi, et non des conséquences de nos mauvaises actions, par exemple. Au chapitre 4, verset 16, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Revenons à notre passage au verset 3, où on peut lire « Béni soit Dieu. » Dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges et par qui nous avons été choisis et mis à part conformément à son plan, comme on peut le voir aussi au verset 2. Il liste ensuite trois bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu. Il nous a donné une vie nouvelle. Nous avons une espérance vivante. Et Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Les paroles de Pierre offrent joie et espérance dans les temps difficiles, et sa confiance repose sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Nous vivons dans l'espérance vivante de la vie éternelle. Notre espérance ne réside pas seulement dans l'avenir. La vie éternelle commence lorsque nous nous confions en Christ et intégrons la famille de Dieu. Très souvent, le temps qui passe réduit à néant la plupart de nos espoirs, espoirs humains. Ils s'affaiblissent, finissent par mourir. Mais avec le temps, l'espérance du chrétien croît en gloire. Cette introduction de Pierre est nécessaire avant de parler de l'épreuve, parce qu'il est bon de se rappeler pourquoi et pour qui nous sommes prêts à souffrir. Deux questions quand même peuvent se poser, c'est « Ma confiance en Dieu a-t-elle des limites ? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus ?» Versets 6 et 7, la première partie du verset 7, on arrive à l'épreuve par le feu, éprouvée par le feu. 1 Pierre 1,6 nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » L'épreuve est une nécessité. Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie, notre salut viennent de Dieu. Le début du verset 6 et la conclusion des 5 premiers versets est dit « Voilà toutes les choses qui font votre joie. » Mais il est intéressant de relever que la phrase ne finit pas là, et qu'immédiatement Pierre ajoute « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il dit en substance « Vous êtes dans la joie et vous êtes triste » dans la même phrase. Pierre parle des épreuves du présent, maintenant. Il explique que c'est une nécessité de les traverser, les mots « puisqu'il le faut ». Dans le grec, le mot qui est utilisé pour « falloir », c'est « dei » et suggère une obligation, une contrainte survenant d'une décision divine. Ces mots « puisqu'il le faut » montrent qu'en certaines circonstances, Dieu sait que nous avons besoin d'épreuves. Parfois, elles peuvent être une punition quand nous avons désobéi, on peut le voir dans les psaumes. D'autres fois, elles préparent à la croissance spirituelle ou même nous empêchent de pécher. Nous ne connaissons pas toujours le pourquoi des épreuves, mais nous pouvons être certains que Dieu le sait et fait ce qui convient le mieux. Pierre dit aussi que ces temps durs apportent de la tristesse. Et si Pierre insiste sur cette douleur, cette souffrance apportée par les épreuves, c'est pour rappeler aux chrétiens qu'il nous faut accepter que dans la vie, il y aura des moments difficiles. Mais que c'est pour un temps limité par Dieu. C'est lui qui décide de la durée de nos épreuves. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus, être accablé par toutes sortes d'épreuves. De Timothée chapitre 3 verset 12 nous dit « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc ne soyons pas étonnés de connaître des tempêtes dans notre vie. Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. C'est même le contraire. Alors notre foi plus précieuse que l'or ? 1 Pierre 1,7 « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. » Comme je l'ai dit au début, dans l'Antiquité et même encore aujourd'hui, donc pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. L'or était chauffé donc à plus de 1000 degrés Celsius dans un creuset pour eux. L'or fondait, les impuretés remontaient à la surface. Le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb. Une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler l'or uniquement. On utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Jésus. Le feu épure tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance avec le Christ. Les épreuves, luttes et persécutions perfectionnent et fortifient notre foi, nous rendant ainsi utiles pour Dieu. Une foi qu'on ne peut éprouver est une foi en laquelle on ne peut se fier. Nous voyons dans le livre de Job au chapitre 1 que Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu que parce qu'il est béni. Dieu va donc permettre que Job soit éprouvé par le feu avec une seule limite laissée au diable, tu ne prendras pas sa vie. En lisant la suite du livre de Job, nous pouvons voir que malgré les souffrances terribles qu'il a pu vivre, il savait que garder sa foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste. Dans Job chapitre 23 verset 10 à 12, on peut lire par exemple « Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Nous n'aurons pas tous à vivre des épreuves aussi extrêmes que celles vécues par Job. Mais nous pouvons nous identifier à ses paroles. Sans avoir vécu en Afghanistan, certains d'entre vous ont probablement vécu du rejet, de la moquerie à cause de votre foi. Bonne nouvelle, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Mais Dieu ne permet pas ces souffrances pour nous punir. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions la leçon qu'il veut nous enseigner et que nous lui rendions gloire à lui seul. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous édifient et peuvent nous inspirer dans nos propres souffrances. Aujourd'hui, certains sont parfois littéralement éprouvés par le feu. Telle est l'histoire de Gédéon, un chrétien d'Érythrée, pays situé en Afrique de l'Est. Dans son pays, le gouvernement arrête systématiquement tous les chrétiens qui ne font pas partie d'une dénomination reconnue. Gédéon est responsable d'église, et avec d'autres membres de sa communauté, il a été mis en prison, et il y est resté pendant 6 ans et demi. Donc voilà son témoignage. « Le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de prison mesurant 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette chambre étroite, sans fenêtre. Pendant les 3 premiers mois de notre emprisonnement, avec les membres de sa communauté, ils nous ont violemment battus. Nous étions appelés au moment où nous nous y attendions le moins pour être battus. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre camp de prisonniers, un endroit extrêmement chaud, où il faisait en moyenne 40 degrés. J'ai dû ramasser du bois, des pierres, travailler dans la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Comme j'ai refusé de renier Jésus, ils ont prolongé mon temps de prison. Un jour, nous avons été relâchés et ils ne nous ont toujours pas dit pourquoi nous avions été arrêtés. Ils nous ont avertis, si on vous retrouve encore dans une église, vous serez tués. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'a traumatisé. Je pensais que je resterais en prison toute ma vie. Dans cette souffrance, j'ai recherché la face de Dieu. J'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens. Et dans le camp de prisonniers, des gardes ont accepté Jésus. C'est pour le Christ que je vis. C'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. On arrive au verset, deuxième partie du verset 7 jusqu'au verset 9, les résultats de l'épreuve. Le texte fait une boucle. Au début, verset 1 à 6, Pierre nous exhorte à louer Dieu. Puis, après avoir nous avoir annoncé qu'il est nécessaire que nous vivions diverses épreuves, il nous ramène à la louange, fruit de la valeur éprouvée de votre foi. Je vais lire les versets donc. Quel est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra? Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Certains de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi certains membres de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre. Mais leur récompense est céleste. D'autres sortent de la tempête. Ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux grâce au feu des épreuves. Tel est le témoignage de Rebecca, une chrétienne sri-lankaise, qui est littéralement passée par le feu de la persécution et en est ressortie plus forte. Je vais lire aussi son témoignage. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait dans son église, qui s'appelle Zion de Batticaloa, au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère, son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Donc on nous invite aussi de prier pour cette sœur. Les circonstances horribles qu'elle a vécues n'ont pas altéré sa foi en Dieu, au contraire. Et sa relation avec son Sauveur s'est encore approfondie. Ce témoignage rejoint ce que nous dit Pierre dans sa lettre. Humainement, il nous paraît impossible de nous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse, comme le dit le verset 8. Mais au verset 7, nous avons à nouveau le rappel que tout cela est pour Jésus et par Jésus. Si Pierre peut affirmer que l'épreuve a pour résultat la louange et la joie, si Gédéon et Rebecca l'ont vécu, c'est parce que le Christ leur a donné la force de supporter les flammes et qu'il les a consolés et relevés après leur souffrance. Quand nous souffrons, réagissons à la souffrance par la confiance que Dieu connaît, planifie et oriente notre vie pour le mieux, en nous donnant sa force et son amour et en nous conduisant vers un meilleur avenir. Réagissons par la persévérance, qui n'exclut pas l'expression de la douleur, mais empêche de céder à l'amertume et au désespoir. Et aussi par le courage, qui s'appuie sur la présence à nos côtés de Jésus, notre frère et sauveur. Celui qui a souffert pour nous ne va pas nous abandonner, mais nous soutenir. Nous sommes sauvés pour l'éternité, mais nous devons accepter que notre foi puisse être mise à l'épreuve, éprouvée, attristée, mais toujours confiant. Le verset nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu est la louange, la gloire et l'honneur. Attention, oui, certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre, mais le texte annonce bien que c'est lorsque Jésus apparaîtra que ces résultats seront manifestés. Il n'y a ici aucune garantie d'une récompense dans ce monde. Romains chapitre 8, verset 18 confirme cette pensée. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les épreuves d'aujourd'hui nous préparent pour la gloire de demain. Pierre va d'ailleurs continuer d'en parler plus loin dans cette même épître. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Tout comme Manga, jeune chrétien du Nigeria, nous pouvons nous réjouir dans l'épreuve. Donc je vais lire aussi ce témoignage de ce frère qui habite au nord-est du Nigeria, qui a vécu des choses très difficiles. Manga a été agressé par Boko Haram, un groupe extrémiste au nord du Nigeria, et son père a été tué sous ses yeux, et il nous raconte son histoire. Voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assaillants nous ont emmenés hors de notre terrain, mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attaché les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père, ils ont séparé donc sa tête. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être tué, je me suis débattu. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé qu'en quelques instants, j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essayent de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont donc demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que vivre pour Christ. Et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et à moi de renier notre foi et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, que si je devais mourir, ce serait comme mon père, en chrétien. Ils ont répondu, alors on va vous tuer. Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu. Alors on va survoler le reste de la lettre qui est destinée à des chrétiens persécutés en Asie mineure. Et les différentes exhortations que Pierre leur donne doivent nous parler en tant que disciples de Jésus. Et surtout nous donner des outils pour faire face aux épreuves et aux persécutions. Dans cette lettre, donc, Pierre les encourage à espérer. Dans le chapitre 1, verset 13. À être saint. Chapitre 1, verset 14 à 16. À vivre en révérant Dieu. Chapitre 1, toujours, versets 17 à 21. Pierre les encourage à aimer. Chapitre 1, versets 22 à 25. Il les encourage à progresser en se nourrissant de la parole. Chapitre 2, versets 1 à 3. À être des pierres vivantes, un temple pour Dieu. Chapitre 2, versets 4 à 10. À avoir une bonne conduite au milieu des incroyants. Chapitre 2, versets 11 et 12. À pratiquer le bien, au chapitre 2, versets 13 à 17, et surtout à suivre l'exemple de Jésus-Christ, au chapitre 3, versets 18 à 22. Alors terminons ce temps avec un passage du chapitre 4 de cette lettre, les versets 12 et 13, que je vous laisse prendre aussi. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen.